En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Alors, je me suis, attribué, après avoir hésité, l'Inde ancienne. Alors, pourquoi ai-je hésité ? Pour une raison toute simple, parce que j'ai beaucoup étudié cette question, mais il y a une trentaine d'années, à l'occasion d'une étude que j'avais conduite sur les origines du régime des castes dans l'Inde ancienne. Et j'avais proposé à l'époque, je propose toujours d'ailleurs, une thèse que je vais vous esquisser, qui rapportait le régime des castes à l'inconsistance politique du sous-continent indien. Et cette inconsistance politique est évidemment en rapport avec la guerre, à la fois comme facteur et comme conséquence. Et donc, nature et guerre en Inde ancienne est un sujet réel, mais j'ai hésité parce que je n'ai plus mis le nez dans ces questions depuis 30 ans. Je serais très étonné qu'il y ait eu des documents qui bouleversent ce tableau, parce qu'en Inde, j'y ferai allusion tout à l'heure, les documents, en dehors des Védas, des Upanishads, enfin de tout ce qui est produit par les Brahmanes, brillent par son absence. Enfin, bon. Regardons une carte, chacun en a une, là. C'est M. Kerbra qui m'a trouvé ça. Pour le moment, il avait des doutes sur mes capacités à utiliser cet instrument. Vous connaissez, j'imagine, cette carte. Donc, une carte physique qui est parfaitement explicite. On est frappé, si vous voulez, d'abord par le fait qu'on a affaire à un ensemble compact, qui donne cette impression, un ensemble composé de trois éléments fondamentaux, la frontière himalayenne, essentiellement au nord, mais également à l'ouest, nord-ouest, un peu moins, alors ça ne figure pas sur la carte, mais enfin, il y en a un morceau, au nord-est. Deuxièmement, vous avez la partie des plaines, la vallée de l'Indus au nord-ouest et la vallée du Gange et du Brahmapoutre au nord, si vous voulez, dans ce qu'on appelle généralement le complexe indo-gangétique. Alors, cette carte ne me paraît pas merveilleuse parce que tout de même, les deux vallées ne communiquent pas directement, alors qu'ici, on a l'impression que c'est parfaitement ouvert, mais il n'y a pas d'obstacle d'irriment entre ces deux ensembles. Et troisièmement, il y a le Deccan, qui est un plateau incliné ouest-est. Bon, alors... Qu'est-ce que ce plateau ? Pour le point de vue géologique, c'est une plaque qui est remontée, qui continue à remonter du sud vers la plaque de l'Asie, et c'est pourquoi l'Himalaya continue d'ailleurs à monter, enfin, et qu'il y a des tremblements de terre. Donc on a un ensemble qui est à la fois unifié, qui donne l'impression d'être unifié et qui, d'autre part, est composé de deux éléments fondamentaux, la plaine indo-gangétique et le Deccan, l'Himalaya tenant lieu de frontière. Alors, introduisons la guerre sur un temps indéfini dans un contexte physique de cette nature. Je pense que si on a une certaine expérience d'histoire comparée, on peut considérer, je considère en tout cas, qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un attracteur historique, en prenant un attracteur, en l'empruntant aux physiciens et aux mathématiciens, qui paraît évident, à savoir l'unification politique de l'ensemble en un empire par la guerre. Bon. Je dis bien sur un temps indéfini, pas infini. De fait, nous savons qu'il y a eu trois impérialisations à peu près intégrales de l'ensemble, vraiment de tout cet ensemble d'abord par les Maurya, plus précisément par Ashoka, qui est le deuxième roi, Maurya, qui a régné entre vers 268 à 232, ça varie. C'est une première indication. Les dates en Inde sont très incertaines lorsqu'il n'y a pas de témoignages extérieurs. Pour une raison simple, c'est que pour les brahmanes, l'histoire n'existe pas. Tout a été dit dans les Védas. Et donc, depuis, il ne s'est rien passé, et tout est dans les Védas, et aujourd'hui encore, y compris, puisqu'on fête le centenaire, la théorie de la relativité générale, et dans les Védas. Bah, je ne dis pas que tous les brahmanes croient ça, mais donc on a, comment dire, on n'a pas, il n'y a pas d'archives par ailleurs, et pour des raisons politiques, donc l'historien est extraordinairement démuni lorsqu'il veut étudier l'Inde, du moins avant l'époque moderne et surtout contemporaine. Il y a eu un deuxième empire, celui des Gupta, entre 320 et 500 de notre ère, et un troisième, l'empire moghol, 1526 à 1857, en principe, après la révolte des Sipayes. En fait, cet empire était très décadent dès le XVIIIe et même commençant à la fin du XVIIe siècle. Donc, on a des empires, l'attracteur a joué, mais ce sont des empires extraordinairement éphémères parce qu'au lendemain de la mort d'Ashoka, l'empire se décompose. Au lendemain des Gupta, ça se décompose, enfin à la fin des Gupta, alors pas à la fin des Mongols, parce que les Anglais étaient là, mais c'était en voie de décomposition. Donc on a une situation qui est en contraste frappant avec celle que la Chine peut présenter et que nous avons vue, où il y a par contre une consistance impériale. Il y a eu des périodes évidemment interdynastiques, mais à partir des Han, il y a eu la grande période interdynastique entre 200 et 600, enfin pour simplifier, et les Tang, mais c'est beaucoup plus solide, si vous voulez, et les royaumes successeurs des Han avaient une certaine consistance, mais peu importe, laissons la Chine de côté. La question que pose ce résumé de l'histoire politique du sous-continent indien, c'est pourquoi ? Ma réponse sera, il y a une prédominance très forte des forces centrifuges en Inde. Deuxièmement, quelles sont les conséquences de cette situation centrifuge sur la construction politique et la guerre ? Et je soutiendrai la thèse que la composition politique de ce sous-continent est d'une inconstance complète. Il y a une fluidité politique perpétuelle. Et d'où la troisième question, comment les Indiens se sont-ils débrouillés pour vivre en dépit de cette inconsistance politique permanente ? Et ma réponse est qu'ils ont mis au point, par bricolage évidemment, le régime des castes. Alors, si vous permettez, je vais passer par ces trois points de manière rapide. Si vous voulez en savoir plus sur ma position sur cette question, je vous renvoie. Ça s'appelle « La solution indienne » parue aux presses universitaires de France en 1988. C'est épuisé depuis longtemps. On doit trouver ça sur Amazon ou dans des bibliothèques, je suppose. Alors, voyons d'abord les contraintes centrifuge. Alors, d'une manière générale, lorsqu'on introduit les notions de centripète et centrifuge, eh bien, on considère et on doit considérer des facteurs physiques de quatre ordres. Le climat, je ne les classe pas, mais enfin tout de même, le climat, le relief, l'hydrographie et l'hydrologie, et quatrièmement, le rapport continent-terre. Continent-mer. Alors voyons quelle est la situation indienne, et ça apparaît sur cette carte, dans une large mesure, elle ne me satisfait pas. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai choisie. Il y en a de meilleurs, si vous voulez. Alors, bien entendu, les facteurs physiques ne jouent pas directement. En matière humaine, ce n'est jamais, jamais si A, alors B. C'est toujours médiatisé par des cultures, en l'occurrence par des facteurs techniques, que l'on peut distribuer en gros dans les trois grandes phases de l'aventure humaine, les facteurs techniques primitifs, les facteurs techniques traditionnels et les facteurs techniques modernes, si vous voulez. Bon. Alors, ici, la période considérée est évidemment la deuxième, les facteurs traditionnels. Et la combinaison des données physiques et des facteurs techniques résulte pour l'essentiel dans un problème de ce que les économistes appellent des coûts de transaction, dont la partie essentielle est le coût des communications. Donc, le gros problème pour la construction politique dans le monde traditionnel, eh bien, c'était de bénéficier de conditions qui permettaient de minimiser les coûts de communication. Or, cela n'était pas, donné spontanément. Alors, si on applique cette problématique très simple, enfin, qui est tout à fait classique, si vous voulez, au sous-continent indien, pris au stade technique que j'appelle traditionnel, à quelle conclusion parvient-on ? Commençons par le relief. Bon, il y a un arc montagneux prodigieux, avec derrière un plateau, le plateau tibétain. Autrement dit, le sous-continent est isolé par cette barrière montagneuse. La conséquence que l'on peut en tirer, que cela incite à la concentration sur soi-même. Ce n'est pas un monde ouvert sur l'extérieur. Alors, il y a au nord-ouest des possibilités de communiquer et qui ont été utilisées, mais pas par les Indiens, elles étaient utilisées par ceux de l'extérieur. Les invasions sont souvent venues par là. À l'est, il y a une certaine expansion indienne, mais qui n'a jamais été militaire, qui a été pour l'essentiel culturelle et missionnaire. Il y a eu des missionnaires, des brahmanes qui sont allés Cambodge, sud du Vietnam, jusqu'en Indonésie, et il y a eu une expansion. Il y a toujours plus que des traces à l'heure actuelle, mais ce n'est pas une expansion, si vous voulez, de type mésopotamien, si vous voulez, ou chinois. C'est vraiment culturel. Bref. On a affaire à une civilisation qui est vraiment, ou qui se considère comme enfermée dans cet ensemble, et il suffit de regarder une carte pour comprendre pourquoi. Deuxième aspect du relief, on a une distinction très nette, et même une opposition forte, entre les plaines indo-gangétiques, d'une part, et la masse continentale du Deccan. Mais entre les deux, il n'y a aucun obstacle, qui empêche des communications ou qui interdise une expansion militaire. Ce n'est pas une barrière montagneuse, simplement on monte progressivement, et puis c'est troué, si je puis dire. Donc on a deux ensembles très différents, mais qui ne sont pas séparés par une barrière. Autrement dit, ça n'est pas vraiment centripète, mais ça n'est pas centrifuge non plus. Enfin, bon. Autrement dit, le relief favorise plutôt un ensemble et un bloc voué à l'unification, en tout cas culturelle. Et donc, on a ici une merveilleuse ère culturelle qui correspond à une civilisation maximale, la civilisation indienne qui est hautement individualisée, précisément parce qu'elle a évolué sur elle-même avec relativement peu d'apports extérieurs et parce qu'elle a été, alors ça c'est une parenthèse, parce qu'elle a été prise en main, si vous voulez, par la caste des brahmanes, si vous voulez, vouée à l'élaboration religieuse et culturelle. Le climat, comme vous le savez, il est dominé par la mousson, qui impose deux saisons très tranchées, la saison des pluies, de juin à septembre-octobre, enfin, ça dépend des lieux, et une saison sèche d'hiver, très sèche, sauf du côté de l'Est, parce qu'il y a une mousson d'hiver qui vient du golfe du Bengale, mais qui apporte des pluies beaucoup moins abondantes et qui, pour l'essentiel, arrose, disons, la côte orientale. Les pluies sont en fait très inégalement distribuées. L'essentiel tombe sur les côtes ouest, ce qu'on appelle les ghats, ça veut dire escalier, parce que, tout simplement, étant donné le basculement du plateau d'ouest en est, eh bien, les masses nuageuses chargées d'eau qui viennent du Pacifique sont obligées de monter, et lorsque elles montent, elles se refroidissent, et par conséquent, il y a condensation et pluie. Donc l'essentiel des pluies est à l'ouest. À mesure qu'on va vers l'est, eh bien, elle diminue, et donc, bon, en gros, c'est la saison des pluies, mais ça reste sec. Alors, il y a une possibilité de corriger la sécheresse du plateau du Deccan en creusant ce qu'on appelle des tanks, c'est-à-dire des réservoirs, enfin bon, des mares, si vous voulez, où les eaux de pluie, lorsqu'il pleut, sont concentrées et peuvent être utilisées. C'est le système qui domine traditionnellement dans cette région. Alors, le climat est donc plutôt centrifuge, enfin, en ce sens que c'est très inégalement distribué. Mais cette centrifugalité, je ne sais pas si le mot existe, est corrigée par la technique, en l'occurrence celle des tanks. Donc il n'y a pas comme le désert, si vous voulez, de Syrie, c'est pas un désert. Enfin bon, il y a un désert au nord-ouest, mais c'est assez secondaire. Voyons l'hydrographie. Je dis bien graphie, c'est-à-dire la distribution des fleuves et des rivières. Alors on a trois ensembles ou trois systèmes que vous connaissez, le système de l'Indus, qui est alimenté par les neiges et les glaciers de l'Himalaya. Il y a le système du Gange et du Brahmapoutre, qui figure peu là-dessus, on le voit mal, on le voit même pas du tout, et qui est alimenté par la mousson, mais également par la fonte des neiges et des glaciers de l'Himalaya. Et puis, vous avez le système du Deccan, qui n'est pas un système. Le plateau est basculé ouest-est, si bien que les fleuves dominants ont un cours ouest-est. Alors, ça, c'est la raison pour laquelle cette carte ne me plaît pas, c'est qu'elle donne l'impression que c'est nord-sud. Donc, je ne sais pas qui a dessiné cela. Il y a évidemment des affluents. Mais c'est pour l'essentiel, les rivières, alors il y en a qui ont un cours est-ouest, au nord, presque au contact, il y a la Narbada et la Tapti. Vous regarderez chez vous. Donc, je veux en arriver à ceci, c'est que les systèmes, à part le système de l'Indus et du Gange, que l'on peut faire communiquer, le Deccan est très résolument centrifuge, en ce sens que les fleuves ne communiquent pas, ne forment pas un réseau, d'une part. D'autre part, ils ne sont jamais navigables. Je parle des Deccans. Tout au plus, des bateaux peuvent-ils remonter à partir des deltas, mais ça ne va pas très loin. Autrement dit, Le décan est composé de morceaux, si vous voulez, qui sont isolés les uns des autres et où les communications par eau sont pratiquement impossibles. En effet, je reviens sur l'hydrologie, donc le régime des eaux, si vous voulez, qui est directement dans la dépendance du climat. Donc le système de l'Indus et du Gange sont bien arrosés et il y a la possibilité de naviguer. Par contre, le décan, il y a une période de pluie et donc des torrents, et puis ensuite, bon, les lits sont presque à sec, donc il est impossible de naviguer. Donc, il y a un contraste extrêmement vif entre la plaine indo, les vallées, la plaine indo-gangétique et le décan, qui est entièrement centrifuge, et entre la plaine et le plateau, c'est centrifuge aussi parce que les communications par eau sont impossibles. Alors, bien entendu, on peut communiquer par terre, mais cela ne permet pas de transport de pondéreux. Enfin, dernier aspect de physique, les rapports côte-continent. Bien, l'ensemble est d'une continentalité extrême, je pense que c'est la continentalité la plus extrême sur la planète. La mer ne pénètre, pour ainsi dire, nulle part. Regardez surtout le décan. Les fleuves, à partir des estuaires ou des deltas, ne permettent pas la pénétration à partir de la mer. Donc, les côtes sont même à ce point inhospitalières que le cabotage n'est pas tout à fait impossible, mais a toujours joué un rôle très secondaire dans l'histoire indienne, traditionnelle, bien entendu. Sur le décan, l'habitat, du fait de ses conditions, tend à se concentrer à l'ouest, au pied des Ghâts, et donc ne communique pas avec l'intérieur, et à l'est, dans les deltas, qui sont isolés les uns des autres, puisque les fleuves ne sont pas navigables, ne communiquent pas, et que le cabotage est insignifiant. Donc, l'habitat dans cette énorme masse du décan, l'habitat est périphérique. Et donc, est résolument et définitivement centrifuge. Donc, le tableau général, si vous voulez, sans entrer dans davantage de détails qui me paraissent superflus, est assez facile à expliquer en termes de centrifuge et de centripète. La plaine indo-gangétique est centripète, le décan est centrifuge, et le contact entre ces deux ensembles est neutre, en ce sens que rien ne s'y oppose, si vous voulez, mais rien non plus ne le facilite. Et donc, la conclusion qui paraît s'imposer, c'est que l'initiative devrait venir du nord, de la plaine indo-gangétique. Alors, si on introduit en plus les techniques, eh bien, la conclusion est que les communications par terre l'emportent de très loin sur les communications par eau, qui sont pratiquement absentes. On ne circule guère que par terre, puisque ni les fleuves ni la mer ne sont disponibles, et par conséquent, les communications subissent des coûts à peu près prohibitifs. Bon. Donc, ce ne sont pas des conditions très favorables pour, non pas conquérir un empire, mais pour le conserver dans l'unité. Donc on a un ensemble géographique promis à l'unification politique par la guerre, mais une unité qui est compromise par les contraintes physiques et techniques. Alors quelles sont les conséquences en termes politiques? Et je prends ici politique au sens de politi. C'est un c'est pas vraiment un néologisme que j'ai introduit, mais j'entends par là l'ensemble à l'intérieur duquel des dispositifs et des procédures permettent en principe, du moins, de parvenir à une résolution des conflits sans recourir à la violence. L'ensemble à l'intérieur duquel la paix peut être atteinte, tant bien que mal, par la justice. Voilà. Les configurations concrètes des politiques varient en fonction d'un certain nombre de variables. On peut formuler, à partir du point précédent, une hypothèse. C'est une hypothèse au sens scientifique du terme. En partant de la question, que devrait-il se passer si la guerre règne dans un tel milieu naturel? Bien, la réponse, que je résume d'entrée, il devrait en résulter une grande inconsistance politique et des mouvements perpétuels de convection de la matière politique. Il ne devrait pas y avoir de politique clairement circonscrite à la manière dont nous les trouvons dans les cités, par exemple, grecques, et surtout l'Europe, ce qu'on appelait les États-nations, avec des frontières clairement définies. Ça n'existe absolument pas dans l'Inde ancienne. Alors, peut-on vérifier cette hypothèse? Bon, la réponse est évidemment oui, c'est rhétorique, si vous voulez, mais les données historiques, toujours parcimonieuses en Inde, sur quoi peut-on se fonder pour essayer de reconstruire un peu ces histoires? Il faut partir des Védas, les Upanishads nous donnent peu de renseignements. Les Jataka, les vies antérieures du Bouddha, où en regardant de près, on trouve des choses. Il y a des renseignements venus de l'extérieur, grecs essentiellement, à partir de l'expédition d'Alexandre. Il y a la sémantique, la linguistique, il y a tout de même, on a des ressources, mais il n'est pas question de dire telle année à tel endroit, l'Inde ne le permet pas. Alors, partant de la guerre, elle a probablement été présente depuis des millénaires, comme partout en Inde, depuis la plus grande antiquité, c'est-à-dire bien avant l'arrivée des Aryens, vers 1400-1200 avant notre ère, donc dans l'Inde dite dravidienne, d'un fond très ancien, l'archéologie permet de remonter jusqu'au paléolithique supérieur. Là, il y avait un vieux fond. Et la guerre, quand a-t-elle commencé? On n'en sait rien. Probablement avec la néolithisation. Donc, à partir de 1400, arrivent les Aryens, les Indo-Aryens, comme on dit. Alors, c'est un peuple indo-européen, comme vous le savez, de structure segmentaire, donc travaillé par des mouvements de fusion et de fission, tout à fait classique. Ce qui est beaucoup plus original, c'est que ces Indo-Européens ont tous une structure sociale aristocratique. C'est-à-dire que la société est composée de ce que j'appelle des pyramides sociales, dont le sommet est occupé par une lignée ou un lignage, qui monopolise en grande partie le pouvoir, la richesse et le prestige. Pouvoir, richesse et prestige, et c'est ça le point important, tout à fait indépendant de tout appareil de pouvoir centralisé. Ils sont autonomes et même indépendants. Le corps de la pyramide est composé de pasteurs et agriculteurs libres, et qui sont, si vous voulez, dans la suite, pas dans la domesticité, ce sont les fidèles, si vous voulez, du lignage aristocratique. Et puis, il y a une troisième strate d'esclaves. Ces esclaves sont peu des prisonniers de guerre, il y en a, c'est plutôt des asservis pour dette. Et pourquoi pour dette? Eh bien parce que le propre des sociétés nomades, du moins là où l'élevage joue un grand rôle, ce sont les épizootis qui frappent de manière très très inégale les troupeaux. Et donc, certains sont ruinés, et donc, trouvent moyen de survivre en se mettant au service, alors au sens fort du terme, des aristocrates. Si vous voulez. Alors que chez les agriculteurs purs, lorsqu'il y a une mauvaise récolte, parce que l'hiver a été rigoureux ou l'été pourri, ou quelques-uns, ça frappe tout le monde, si vous voulez, dans une zone donnée, ça ne discrimine pas. Enfin, bon. Donc, il y a. Il y a une situation très, très particulière. Troisième caractère de ces sociétés indo-européennes, ce sont des guerriers. Bon, des guerriers, c'est leur métier. Les aristocrates sont guerriers, mais le peuple aussi. Le peuple des agriculteurs pasteurs sont également armés, ils sont des hommes libres, si vous voulez, mais bien entendu, ils ne font la guerre que, en suivant les aristocrates. Alors, au début, lorsque les premières incursions indo-aryennes en Inde, par le nord-ouest, si vous voulez, et donc l'Indus, a été très progressive et a dû commencer tout simplement par des raids de pillage. Enfin, ce sont des pillards, enfin, bon, du moins au départ. La marche à l'empire universel s'est étalée sur environ 1000 ans, entre l'arrivée vers 1400 et l'empire installé par Ashoka au IIIe siècle avant notre ère, après que la vallée du Gange essentiellement et l'Indus d'ailleurs eût été unifiée par son père et son grand-père Chandragupta, enfin les Maurya, la dynastie des Maurya, c'est un des aristocrates qui a fini par gagner. Alors entre le point de départ, cette société que je vous ai décrite d'une manière caricaturale, et le point d'arrivée, l'Empire, il s'est passé des choses, des étapes successives, tout à fait classiques, et que l'on peut, en gros, reconstituer. D'abord des chefferies, puis des principautés, puis des royaumes, et enfin un empire. Et tout ça, du fait de la guerre perpétuelle, permanente, il y a à chaque tour des vainqueurs et des vaincus, et avec le temps, sur 1000 ans, eh bien, il y a coalescence politique jusqu'à la mise en place d'un empire. Alors, ces étapes successives sont accompagnées de deux de phénomènes majeurs. D'abord, un renforcement constant du pouvoir politique. Au départ, ce sont des régimes aristocratiques. Il y a généralement, entre les aristocrates qui se contrôlent les uns les autres, il y a un primus inter pares, que l'on affuble du titre de roi, mais ça n'a rien à voir avec ce qui vient après, si vous voulez. Tout simplement parce que c'est utile, un médiateur, si vous voulez, qui permet de faire circuler les informations et qui permet de réunir pour régler des problèmes, parce que tous ces gens-là sont très batailleurs. La meilleure illustration qu'on peut avoir de cette société, c'est Homère, si vous voulez. Prenez Homère, alors c'est dans des cités, c'est plus le stade segmentaire, mais le régime politique, c'est très exactement ça. Vous prenez plus précisément dans l'Odyssée les trois champs, 6, 7, 8, autant que je me souvienne, des Phéaciens, où vous avez un merveilleux traité de sciences politiques aristocratiques. Ce sont des sociétés, donc je le répète, qui ne sont des régimes très très tempérés, je dirais. Là, au contraire, le pouvoir politique se concentre et le point final est la mise en place de hiérocratie, c'est-à-dire des souverains qui se réclament d'une investiture supérieur, si vous voulez, charismatique, hiératique, ainsi de suite. C'est pourquoi le mot hiéros est indispensable. Alors, en l'occurrence, en Inde, ça, dès les Védas, on voit apparaître, ils ont été investis de la mission de maintenir l'ordre du monde et l'ordre de la société par des sacrifices. Autrement dit, le référent n'est pas ou très peu un dieu personnalisé. C'est une caractéristique fondamentale de la religion védique et qui va influencer tous les développements ultérieurs. Mais ce sont des hiérocraties très centralisées, à tendance que j'appelle absolue ou autocratique, c'est-à-dire où le souverain dispose, si vous voulez, de l'essentiel du pouvoir, du prestige et de la richesse. Alors, que sont devenus les aristocrates? Eh bien, deuxième évolution, ils ont disparu, à peu près sûrement éliminés physiquement. On a là, mais il n'y a pas de documents, si vous voulez, mais ils disparaissent dans les Jatakas, qui sont entre le 6e et le 4e siècle, il n'y a plus d'aristocrates, alors que dans les Védas, ce sont des aristocrates. Bon. Il y a eu une évolution analogue dans l'Empire perse, où les aristocrates, ce sont des Indo-Européens, donc il y avait des aristocrates, n'ont pas été tués en général, mais ont été cantonnés dans un statut qui les mettait totalement à part du pouvoir. Quant aux Latins, eh bien, les Julio-Claudiens ont commencé à massacrer les aristocrates pour des raisons, enfin, j'allais dire techniques, si vous voulez. Pour concentrer le pouvoir, il faut éliminer tous les contre-pouvoirs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, les contre-pouvoirs, ce sont des aristocrates. Alors, en Inde, ça a été parfaitement réussi. Par contre, ces aristocrates avaient à leur disposition, si je puis dire, ou étaient toujours accompagnés de quelques prêtres, avec un chef des prêtres, qu'on appelait le Purohita, parce qu'ils avaient l'exclusive des sacrifices. Donc c'est en rapport avec la conception générale. La disposition est à peu près la suivante. Un aristocrate commandait un sacrifice pour lui-même et sa famille. Mais il y avait des retombées favorables pour l'ensemble de la pyramide que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors, ce système a été maintenu, si bien que ces hiérocraties autocratiques, si vous voulez, avaient une dimension religieuse qui n'a jamais été interrompue. Le Purohita est un personnage. Bon, vous avez lu ou entendu parler de Dumézil, ça marche très bien pour l'Inde, si vous voulez. Dumézil, ça ne marche pas du tout pour la Grèce, mais c'est une autre question. Bon. Donc, la guerre conduit à un empire universel. Cet empire universel, à peine établi, eh bien, est victime d'une décomposition, mais d'une décomposition presque immédiate d'abord, et qui aboutit à la fixation des politiques au niveau le plus bas possible, au niveau de ce que j'appellerais des chefferies, dont je donnerai, à propos desquelles je donnerai un peu plus de détails dans un instant. Mais lorsque la décomposition, c'est un peu, ça rappelle la situation à l'époque féodale en Europe et au Japon, si vous voulez, mais il n'y a pas de féodalité du tout. Il y a des chefferies, si vous voulez, de petites briques, si vous voulez, élémentaires, il y en a des milliers, enfin, à l'échelle de l'ensemble du sous-continent. C'est lorsque une décomposition de ce type est atteinte, on a la mise en place d'un système que j'appelle polypolaire, c'est-à-dire où il y a de très nombreux acteurs. Pensez aux seigneuries d'Europe ou du Japon. Ces très grands nombres d'acteurs sont en interaction perpétuelle. Il y a une telle poussière d'acteurs qu'il est très difficile de fixer des règles du jeu et impossible de les faire respecter. La conclusion, c'est que la guerre est permanente et perpétuelle. Mais quand vous avez une guerre permanente et perpétuelle, ben vous avez des vainqueurs et des vaincus, et avec le temps, maintenant à l'échelle des siècles, si vous voulez, eh bien, vous avez reconstitution de chefferies, principautés, royaumes, et à l'occasion, les Guptas, un empire. Les Moghols sont venus de l'extérieur, donc ce n'est pas un produit intérieur. La conséquence est une configuration politique d'un type très particulier. On a une succession perpétuelle de coalescences, de décompositions entre des chefferies innombrables et, à la limite, un empire, mais ça n'était que rarement atteint, ce sont plutôt des royaumes. Alors, l'unification peut être imposée de l'extérieur. Il y a eu une première conquête, mais qui n'a pas abouti à un empire, au XIe siècle, par des musulmans. Enfin, c'est des musulmans. Ce n'est pas des Arabes. Enfin, en général, ce sont des Persans, si vous voulez. Ce qu'on a appelé la principauté de Delhi, mais c'est surtout les Moghols en 1526, Babar ou Babour, enfin ça dépend de la prononciation, qui s'emparent de l'ensemble, si vous voulez, et qui fondent la dynastie moghole. Donc entre ces deux situations d'unification achevée et de dispersion totale, on a une fluidité complète des politiques au gré des circonstances et des rapports de force. Alors, on n'a pas de documents, s'il est sur l'histoire, ou très peu. Par contre, on a un traité théorique de cette situation dans l'Arthashastra, je n'entre pas dans les détails, mais il y a un modèle, si vous voulez, qui est décrit dans l'Arthashastra, qui est un traité fondamental de science politique, si vous voulez, de l'Inde ancienne, et que l'on ne comprend que si on a, en tête, si vous voulez, ce modèle de la fluidité, de la convection perpétuelle. Je ne peux pas entrer dans les détails. Bon. On a donc au total une structure à quatre niveaux, une structure politique à quatre niveaux, dont les trois premiers n'ont aucune consistance, et la quatrième, à la base, c'est-à-dire la chefferie, est trop petite et faible pour pouvoir, préserver son indépendance. C'est tout petit, c'est quelques dizaines de villages, si vous voulez. Donc la décomposition atteint cela, mais ça ne peut pas survivre indéfiniment dans cette situation. Autrement dit, ce sont des briques de base avec lesquelles sont construites les ensembles inconsistants de niveau supérieur, toujours par la guerre. C'est pas la construction européenne, c'est vraiment la guerre est perpétuelle et permanente. Alors à tous les niveaux, les régimes politiques sont hiérocratiques, à tendance autocratique forte et kleptocratique. Bon. Le peuple le plus exploité de toute l'histoire humaine a été le peuple indien depuis 2500 ans, Obama. Bon. Le pire étant le régime moghol. Ces splendeurs architecturales que l'on voit en Inde, qui sont de vraies splendeurs d'ailleurs, ont été vraiment payées avec la misère épouvantable. Le sultanat, le mot m'échappait. On est tous vraiment des kleptocrates. D'autre part, à tous les niveaux, on a une stratification sociale qui est sanctionnée idéologiquement en une hiérarchie, hieros, sacré. Il ne faut jamais confondre stratification sociale et hiérarchie. Une stratification sociale, à partir du néolithique, est partout la même. Vous avez trois strates fondamentales, les élites, 10 à 20% de la population, le peuple, 70 à 80% de la population, et des exclus, que je me suis permis, quand j'étais jeune, d'appeler la canaille, en prenant le mot au sens du XVIIe siècle. Ça a beaucoup choqué, c'est les exclus. Alors, il y a tous les esclaves, les infirmes, les mendiants, les prostituées, les comédiens, c'était avant l'ère Reagan. En Chine, les pêcheurs, assez curieux, les marins, ils étaient... Non, excusez-moi. Et d'un côté, d'autre part, les hiérarchies, c'est-à-dire la sanction idéologique par le pouvoir politique de cette stratification sociale. Et alors là, c'est soit trois ou quatre. En Europe, c'était le clergé, la noblesse et le tiers-État. En Inde, c'est des quatre. Il y a les brahmanes, en tête, hiérarchie. Bon. Ensuite, les guerriers, kshatriya. Troisièmement, les vaishya. Alors ça, c'est moins net, c'est en principe les marchands, si vous voulez, les artisans, mais également les pays, les agriculteurs. Et puis, il y a quatrièmement les shudras. En principe, les serviteurs, c'est-à-dire ceux qui sont au service trois autres. Alors, ce sont, bien entendu, les plus nombreux. C'est ce que j'appelle le peuple, du point de vue de la stratification. Et puis, il y a ceux qui sont extérieurs au système, la canaille.
Les agriculteurs sont passés au même rang
que... Non, excusez-moi. Non, recommande. Brahman, kshatriya, vaishya... Shudra. Donc les Shudras, c'est tous les serviteurs, mais je vais y revenir. Tout le monde, on a une société agraire, et donc vous avez des agriculteurs dans toutes les strates, mais plus ou moins, si vous voulez. Parce que simplement, dans une société agraire à productivité faible, 80% au moins de la population doit travailler la terre, sinon ça ne peut pas marcher. Alors, l'inconsistance politique, qui est tout à fait extraordinaire et qui est unique, enfin, à l'échelle planétaire de l'histoire universelle, pose un problème, et un problème qui exige une solution. Pourquoi cela ? Parce que la politique est le cadre, comme je le disais tout à l'heure, où des dispositifs et des procédures permettent de régler pacifiquement les conflits par la justice, pour simplifier. Et donc, la question est comment survivre et vivre, tant bien que mal, dans une situation générale où les politiques ont une tendance extrêmement fâcheuse à se décomposer et se recomposer, ou par conséquent, il n'y a pas à proprement parler de cadre de référence politique. Alors, ma thèse a été que la solution d'une originalité unique a été le système des castes. Alors, je vais en dire un mot. D'abord, le mot est à bannir absolument, parce que ce mot, qui est d'origine portugaise, qui veut dire pur, tout simplement, confond les ordres au sens de la hiérarchie, brahman, kshatriya, etc., d'une part, et d'autre part, et c'est ça l'originalité, ce que les Indiens, les textes indiens, appellent des jati. Qui n'a rigoureusement rien à voir avec les ordres. Donc il y a une confusion qui n'a été dissipée, y compris chez les spécialistes, qu'il y a une trentaine, au cours de la dernière génération, si vous voulez. C'est assez extraordinaire, mais c'est comme ça. Donc il faudrait toujours dire le système des jati pour y comprendre quelque chose. Alors en quoi ça consiste ? Je vais à l'essentiel, c'est une caricature. Mais enfin, ça correspond à la réalité. Une jati, d'abord, est un ensemble strictement endogamique. Ça marie à l'intérieur. Impossible de se marier à l'extérieur. Ça marche toujours aujourd'hui. Composé de gotras, c'est-à-dire de lignages, exogamiques. Donc vous avez un ensemble composé endogamique, composé d'éléments exogamiques. Vous voyez, vous suivez ? Bon. Deuxièmement, chaque jati a une organisation propre, régie par un comité qu'on appelle un panchayat, ça veut dire cinq. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait que cinq, mais en général, il y en a effectivement cinq, enfin, qui sont des têtes de gotra, enfin, bon, qui les gens ont confiance, donc c'est intéressant. Alors, ils règlent différents problèmes, les intérêts de la jati, les usages, faire respecter les usages de la jati, et surtout, veiller à la réputation de la jati. Si par hasard, une fille se fait engrosser par quelqu'un d'autre jati, mise à mort, évidemment. C'est une société où le prestige joue un rôle beaucoup plus décisif que le pouvoir et la richesse. du moins dans le cadre des jati.
Juste une question, ces panchayas, ils sont élus ?
Non, 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 ils sont choisis, si vous voulez, c'est un peu comme les systèmes tribaux où vous avez les plus anciens du lignage, et puis, comme il se passe généralement, il y en a qui sont plus astucieux que les autres et qui s'imposent. Donc, ce n'est pas élection au sens formel du terme, mais c'est un choix de la main. Alors, démocratie, ce n'est pas le mot, mais enfin, tout de même, ce n'est pas une autocratie, ici. On est le système de la jati. Alors, toutes les jati sont hiérarchisées, les unes par rapport aux autres. C'est l'aspect prestige, si vous voulez. Donc il y en a toujours, et chacune essaie de monter et s'efforce de ne pas descendre pour se faire. Alors comment fait-on pour monter? Alors là, il faut tout de même avoir de la chance, avoir beaucoup d'enfants sur plusieurs générations, s'enrichir par la propriété de la terre. Éventuellement, il y a des cas par le commerce. Si on s'enrichit, cela permet d'imposer des restrictions, des tabous beaucoup plus durs que lorsqu'on est moins riche, en particulier en termes d'alimentation. Et donc, la richesse se traduit par le prestige. C'est une société très originale et ça reste en grande partie comme ça aujourd'hui. L'ensemble des jati subit un mouvement perpétuel de fission parce que des éléments de jati quittent la jati pour une raison ou pour une autre, s'entendent plus avec les voisins. Donc ça n'a rien de fixe. Par contre, des fusions de jati sont, il y a des cas, mais sont très très rares et très difficiles, précisément parce qu'elles se méprisent les unes les autres. Alors bon, c'est pas facile de. Donc, l'ensemble est en composition, en remodelage permanent. Et ce, depuis des milliards. Donc, quand cela a été mis en place, on n'a pas de documents, mais très vraisemblablement, à partir du lendemain de la décomposition de l'empire d'Ashoka, donc entre le deuxième siècle avant et le deuxième après, avant l'empire Gupta, parce que à l'époque Ashoka, il n'y a pas l'ombre d'une allusion au jati, et à l'époque Gupta, c'est en place. Donc, ça a pris 4 à 5 siècles si, pour se mettre en place. Alors, comme vous savez probablement, les jati sont censés être spécialisés. Donc, il y a les barbiers, il y a les blanchisseurs, etc., etc. Mais l'essentiel, c'est même la plupart sont agriculteurs. Et l'agriculture est toujours honorable. Donc on ne déroge pas en travaillant les champs. Ce qui explique en partie que même les brahmanes sont agriculteurs pour la plupart. Les kshatriyas aussi. Donc, il n'y a pas identification entre tel jati et tel métier, mais des restrictions. Les brahmanes ne peuvent pas, par exemple, devenir blanchisseurs. C'est absolument impossible, ou forgerons, si vous voulez. D'une part. Et d'autre part, il y a des fonctions exclusives à implication rituelle. Par exemple, seul un brahman peut être un prêtre, et donc organiser un sacrifice. Ce qui ne veut pas dire que tous les brahmanes soient prêtres. De même, seuls les barbiers peuvent tailler la barbe, si vous voulez, et puis couper les cheveux. Ce qui ne veut pas dire que tous les barbiers coupent les cheveux et taillent la barbe. Vous comprenez, il y a une exclusivité, mais qui ne concerne pas tous les membres de la jati. Enfin, les spécialités sont héréditaires, du moins en principe. Bon, donc une société très rigide à la fois, mais en même temps en recomposition permanente. Alors, un mot sur la distribution spatiale des jatis, parce que c'est tout de même l'essentiel. Alors, les jatis de Brahman sont les plus étendues possibles. Elles peuvent s'étendre sur plusieurs royaumes, mais aucune jati de Brahman n'a jamais été étendue à l'ensemble du sous-continent. Les jatis de Kshatriya ne déborde pas un royaume ou une principauté. L'immense majorité, c'est-à-dire les Shudras et les intouchables, sont des jatis de Shudras et d'intouchables, sont cantonnés à une chefferie. Alors c'est quoi une chefferie ? Eh bien une centaine de villages tout au plus, quelques dizaines. Autrement dit, des unités toutes petites qui ne débordent pas ce cadre-là. Mais vous avez, à mesure que l'on monte dans la hiérarchie, si vous voulez, vous avez des jatis, de brahmanes en particulier, qui peuvent, je répète, occuper un très large espace, alors où l'information circule en permanence, et aux frontières entre deux jatis de brahmanes, si vous voulez, l'information peut circuler. Ce qui explique, si vous voulez, que c'est une civilisation d'une homogénéité et d'une isotropie tout à fait extraordinaire. C'est grâce aux brahmanes, aux jatis de brahmanes. Pour terminer le tableau, les jatis, toutes, y compris celles de brahmanes, sont subdivisés en segments de jati. Et ces segments de jati ont une localisation dans les villages. Donc, chaque village est composé non pas de jati, mais de segments de jati qui cohabitent et qui se donnent les uns aux autres des services, le barbier rase tout le monde, les blanchisseurs blanchissent tout le monde, etc. Conséquence, eh bien, chaque individu en Inde traditionnelle est introduit dans deux réseaux distincts de relations sociales. Au niveau de la chefferie, les relations sociales sont exclusivement à l'intérieur de la jati, qui n'a donc aucun rapport avec le pouvoir politique, sinon que les gens payent leurs impôts, sont pressurés. C'est dans ce cadre-là que les gens se marient, qu'ils développent des coutumes, qu'ils s'imposent des normes, qu'il y a des sanctions pour les faire respecter. Donc la jati est auto-administrée intégralement. Le pouvoir politique n'y intervient pas du tout. Et puis au niveau du village, on a des relations de service entre segments de jati. Et donc, il y a des relations, si vous voulez, mais elles sont purement périphériques et de service. Il n'y a pas de communauté villageoise en Inde. Alors, comment ça peut marcher ? Eh bien, vous avez dans chaque village un segment de jati dominant, pas forcément de brahmanes, c'est tout simplement ceux qui ont le plus de terres et qui sont chargés de régler les conflits entre segments de jati. Il n'y a pas de communauté de village, ce qui explique qu'il n'y a jamais eu en Inde de guerre paysanne. Contrairement à ce qu'on trouve un peu partout ailleurs, il ne peut pas y avoir de coalition de villageois. Alors, il y a des guerres civiles, appelons-les ainsi, mais entre jati. Aujourd'hui encore, de temps en temps, ça éclate. Et qui sont donc, qui mobilisent des réseaux tout à fait différents, qui ne sont pas villageois. Alors, quelques conséquences de cette situation, et je terminerai par là. Vous avez d'abord, c'est bien connu, et c'est Louis Dumont qui en particulier avait mis l'accent là-dessus, même si je suis d'accord, pas du tout d'accord avec sa thèse, vous avez une disjonction, mais radicale, entre le social et le politique. La société se gère elle-même dans le cadre des jatis et des villages. Au niveau politique, eh bien, on fait la guerre. On fait la guerre, on gagne ou on perd. Ceux qui gagnent consolident leur pouvoir, ils pressurent la société, si vous voulez, par les prélèvements des impôts, la propriété de la terre, et ainsi de suite. Donc, une société tout à fait étonnante, en fait, il faut un certain temps pour réussir à comprendre comment ça marchait. Deuxième conséquence, eh bien, la guerre à tous les niveaux de regroupement politique, à commencer par les chefferies, est permanente. Mais elle est le fait exclusif des jatis et des segments de jatis à chaque niveau, qui se trouvent occupés des positions de pouvoir. Le peuple n'est absolument pas concerné, sauf comme victime passive de la guerre. Et il y a des témoignages, enfin, grecs. Les Grecs étaient étonnés, enfin, il y a eu des voyageurs, Mégasthène en particulier, il disait, mais c'était extrêmement curieux, il y a deux armées qui se battaient, et à côté, les paysans labouraient la terre. Enfin, bon, le monde est totalement séparé. Troisième conséquence, les porteurs, les conservateurs, les transmetteurs, les développeurs de la culture indienne sont totalement extérieurs aux charges politiques. Ce sont les jatis de Brahman qui composent un réseau interconnecté à l'échelle de l'ensemble. Or, les Brahmanes sont d'abord des spécialistes du sacrifice religieux qui sont seuls habilités à exécuter jusque dans le village. Dans le village, il y a des sacrifices, seul un Brahman peut le faire. C'est l'explication la plus plausible de ce trait tout de même étonnant de l'Inde, de la civilisation indienne, c'est qu'ils donnent l'impression d'être des obsédés religieux. Si vous voulez. Bon, la religion imprègne bien plus que partout ailleurs, et surtout que par rapport à la religion, c'est parce que la civilisation indienne, c'est les brahmanes. Et donc il y a une très grande continuité depuis la religion védique, si vous voulez, jusqu'au Vedanta, 15 siècles plus tard. Enfin, dernier trait, les exutoires aux frustrations, parce que ce n'est pas très gai si on n'est pas en haut, si vous voulez, de subir ce système, je ne rentre pas dans les détails, mais enfin, il se passe des choses, si vous voulez. Il y a deux exutoires. Il y a d'abord les conflits violents entre jatis, mais terribles, enfin, bon, ça explose, et puis ça, des massacres allègres, si vous voulez, qui vont très loin, puis ça se calme lorsque les gens sont calmés, d'une part, et d'autre part, c'est tout à fait différent, c'est l'apparition incessante et l'éclosion variable de sectes nouvelles, qui sont toujours rattachées, si vous voulez, à l'hindouisme, pour simplifier, enfin la culture, il n'y a pas de religion intégralement nouvelle, c'est toujours des rejets de la tradition, mais qui permet, si vous voulez, à certains qui en ont assez de ce régime pesant, c'est de se donner l'illusion de sortir du système, si vous voulez, et de respirer. Mais le système les happe très vite. Et si la secte prospère, eh bien, elle devient une nouvelle jati, tout simplement. Et alors, quel rang occupe-t-elle? Ça dépend de ce qu'elle a, des ressources qu'elle a pu mobiliser. Lorsque les musulmans sont arrivés, eh bien, il y a eu des conversions très importantes, voire la situation actuelle, auprès des jatis les plus intouchables et les plus basses. Parce que les intouchables, j'ai oublié de le dire, sont également réunis en jati, tout le monde. Eh bien, on a eu des jatis de musulmans. Lorsque des chrétiens sont arrivés, enfin les missionnaires, là aussi, les plus malheureux se sont convertis, continuent d'ailleurs, il y a eu des jatis de chrétiens. Donc le système est extraordinairement, vivace, durable, indépassable. Alors bon, ça change aujourd'hui, mais ça reste encore très, 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 très prégnant, si vous voulez. Et, il absorbe tout. Il absorbe tout parce que c'est également d'une extraordinaire souplesse. Donc c'est à la fois très rigide, très souple, et surtout, c'est une conséquence, je crois, de la guerre dans un milieu centrifuge pour l'essentiel, mais à attracteur impérial, si vous voulez. Et la thèse que j'ai défendue il y a une trentaine d'années, qui n'a pas été mal reçue, d'ailleurs. Enfin, je dis pas que... Mais tout de même, ça a changé beaucoup la vision, parce qu'on avait une vision de Dumont, si vous voulez, c'est-à-dire que c'était la religion qui expliquait tout, alors que ça n'explique rigoureusement rien, et en particulier pas le fait que les Indiens sont effectivement très religieux.